Nous allons lire un peu le contexte. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 16. Et ce seront les versets 5 à 11 que nous allons lire. Évangile de Jean, chapitre 16, versets 5 à 11. C'est donc à la fin de sa vie, c'est dans la dernière semaine que Jésus prononce ces paroles. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Alors nous allons parler d'un mot qui n'est pas du tout, mais pas du tout à la mode. Il est même éjecté de notre vocabulaire. Il est relégué aux oubliettes. Il faut dire que, eh bien, nous sommes dirigés par la pensée de la tolérance, qui signifie qu'il est interdit d'interdire. À chacun sa vérité, à chacun sa perception, à chacun sa définition de ce qui est bien et de ce qui est mal. Quel mal y a-t-il à se faire du bien? L'important, c'est moi, c'est ce que j'ai envie de vivre, et toi fais de même. Je ne te l'interdis pas, sauf quand tu vas, par tes choix, m'empêcher de faire ce qui me plaît. Voilà le mode de fonctionnement de notre société. Ah oui, au fait, ce mot sur lequel nous allons nous arrêter, c'est le mot péché. Mais qu'est-ce que le péché? Quelle est la source du péché? D'abord, voyons ce que nous en disons, ou selon ce que la société en dit, et selon ce que Dieu, ce que Jésus nous a enseigné. Et c'est là que nous allons reprendre ce texte que nous venons de lire dans l'évangile de Jean. Donc, dans notre société, la notion du bien et du mal tend à disparaître. Qu'est-ce que donc le péché? Eh bien, le péché, c'est devenu le fait de vivre ce qui est mal à mes yeux. Un peu comme quelqu'un a donné une définition de l'égoïste. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Pour les deux cas, je suis le centre. L'être humain est au centre. Je définis le péché comme je l'entends. Bon, d'accord, nous n'en sommes certainement pas là. Quoique, beaucoup de personnes, et des chrétiens y compris, définissent le péché comme ça les arrange, et elles sont tolérantes quand ça les arrange. Et Dieu là-dedans. C'est l'histoire d'un garçon qui revient chez lui après le culte et sa maman lui demande de quoi il a parlé le prédicateur ce matin. Du péché. Il était plutôt contre. Nous allons ce matin aussi dire que nous sommes contre. Le problème est quand nous sommes tout contre. Et nous risquons de continuer à l'être très proche du péché, tout contre, quand nous avons une mauvaise définition du péché. Voilà une définition qui est commune à la très grande majorité des personnes, des enfants, des jeunes, des adultes, des gens qui ne connaissent pas Dieu comme des chrétiens. Le péché, c'est avoir des vices, c'est commettre des erreurs. Bon, c'est déjà beaucoup mieux que cette tolérance qui nivelle tout, où tout est beau, pourvu qu'on le fasse avec amour, et la plupart du temps c'est l'amour de soi. Mais comme tout le monde commet des fautes et est imparfait, alors on se trouve vite dans une bonne moyenne. En fait, je trouve que ce sont les autres qui sont aveugles sur leurs fautes. Ils semblent les ignorer. En fait, ils ne sont pas capables de les voir. Eux. Donc, lorsqu'on reconnaît ses fautes, alors on incrimine, par exemple, notre main qui a commis un geste déplacé, ou notre langue qui est allée trop loin dans une plaisanterie, ou notre pensée qui a dépassé ce qu'on critiquait chez les autres. Et donc la solution, c'est de corriger la main, c'est de corriger notre langue, notre pensée. Et depuis des années, en fait c'est l'échec, suivi d'une dépréciation de nous-mêmes, où nous finissons même par tolérer ce qui hérissait nos poils auparavant. Alors, et la Bible ? Comment parle-t-elle du péché ? Quelle en est la source ? Et là, surprise, la direction que donne Jésus part dans un autre sens que celui auquel beaucoup pensent. Peut-on changer le mal que nous reconnaissons être en nous ? Quels efforts devrions-nous faire pour changer ? Et si la solution était ailleurs que dans nos efforts ? Ou plus exactement, où devraient-ils être ces efforts ? À quoi Jésus relie-t-il le péché ? Qu'est-ce qui fausse la notion de péché ainsi que la solution pour le régler ? C'est là que nous en arrivons à notre texte. Jésus dit, quand le défenseur, le Saint-Esprit, sera venu, donc à la Pentecôte, il sera venu quelques jours plus tard, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en moi. La source du péché est le fait de ne pas avoir confiance en Christ, de ne pas le croire. Le péché n'est donc pas avant tout un acte. L'acte n'est que le prolongement d'une attitude qui est le manque de confiance en Jésus-Christ. Le problème du péché, c'est un peu comme le chien dent. Tant que vous couperez cette herbe, le problème ne sera pas résolu. La solution, il faut aller plus loin, il faut l'arracher. La solution par rapport au péché n'est pas dans l'effort personnel, mais dans la confiance en Dieu. C'est un peu comme, il y a quelques belles décennies, cet homme qui voit que sa pendule ne fonctionne plus. Alors, il prend les deux aiguilles et il les porte chez l'horloger. Elles ne fonctionnent plus. Mais monsieur, je suis désolé, mais il faut que vous m'apportiez la pendule. Mais ce sont elles qui ne fonctionnent plus, monsieur. Non, vous ne comprenez pas. Il me faut la pendule, le moteur. Non, mais ce sont elles qui ne fonctionnent pas. Je vais dire partout alors que vous êtes incapables. Nous voyons les actes. Nous ne savons pas voir en amont le problème qui devrait être résolu. Adam et Ève faisaient confiance à Dieu. Mais à un moment donné, ils ont écouté Satan et ils lui ont fait confiance plus qu'à Dieu. Est-ce que le péché a été de manger le fruit que Dieu leur avait défendu ? Certainement, mais en amont, c'est une conséquence de la confiance qu'ils ont mise dans la parole de Satan, qui remettait en question la parole de Dieu. Voilà le point de départ qui a entraîné tout le reste. Le péché, c'est de ne pas avoir confiance en Dieu. Jésus affirme, pour parler de l'importance de la confiance en Dieu, « Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie, il reste sous le coup de la colère de Dieu », dit Jésus. Avoir confiance en Dieu ou non, tout est là. Alors notre réaction est peut-être de penser tout de suite, « Mais c'est bon, moi, je crois, j'ai la foi, je crois que Dieu existe, même que Jésus est mort sur la croix, j'en suis sûr même. » Mais la différence entre cette croyance et la foi selon Dieu est trop importante quant aux conséquences éternelles pour ne pas s'y arrêter. C'est Jacques qui écrit dans son épître « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. » Cette croyance, même en Dieu, n'a jamais sauvé personne. Il est nécessaire qu'elle englobe une autre dimension essentielle. Peut-être aussi que nous pensons que nous n'avons pas commis de fautes graves qui nous condamneraient. Mais je rappelle que le verbe « pécher » en hébreu signifie « rater sa cible ». Qu'elle soit ratée de 20 mètres ou de 10 centimètres, de peu ou de beaucoup, le résultat est le même, malheureusement. Le gardien de la prison où étaient enfermés Paul et Silas à cause de leur foi, à cause de leur témoignage, ce gardien était bien supérieur aux autres prisonniers, bien entendu. Mais malgré tout, son problème était aussi grave pour son éternité que pour les pires criminels qui croupissaient dans sa prison. Et là, en pleine nuit, Paul et Silas chantent et ils prient, confiants dans le Seigneur, malgré leurs souffrances. Et tout à coup, un tremblement de terre ébranle la prison. Il y a des tremblements de terre salutaires. Et le geôlier de la prison alors fait un lien entre cet événement et le témoignage qu'il avait entendu à travers les chants et les prières de Paul et de Silas. Alors il demande à Paul, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?»« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Ce qui est demandé à chacun, c'est de placer sa confiance. C'est le sens de ce verbe « croire ». C'est de s'abandonner en Christ, le seul sauveur. Et alors, il donne la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. On est prêt à faire des efforts pour changer dans son comportement. On est prêt à donner pour le sida. On est prêt à être gentil vis-à-vis même de ceux qui ne sont pas sympas avec nous. Mais tout cela est beaucoup plus facile que de faire confiance à Dieu. C'est pour ça que les religions qui ont les œuvres pour base, ça marche. Parce qu'on fait quelque chose. Dire « Je me fie à toi, Seigneur, et non pas à mon intelligence ou à mes capacités », c'est en fait très difficile dans sa simplicité. Mais ne pas vivre cela, c'est cela, le péché contre Dieu. Alors, posons-nous la question, et nous, concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Il me semble évident qu'il n'y a que deux possibilités. Vous pensez être chrétien parce que vous n'avez pas commis de fautes lourdes et que même vous n'êtes pas si mal que ça. Le problème, si vous croyez que vous êtes chrétien parce que vous faites ce qui est assez bien et que vous évitez ce qui est trop grave, c'est que cela vous maintient dans la tromperie. Jésus montre que le religieux qui, en priant, remercie Dieu de ce qu'il est meilleur que les autres, surtout par rapport à cet homme qui est à côté de lui, cet homme, ce religieux qui donne, qui est bon, qui est irréprochable ou presque, eh bien celui-là, dit Jésus, repart sans être en règle devant Dieu. Il croit que Dieu existe. Il fait beaucoup de bonnes choses, mais il n'est pas sauvé, même s'il est très religieux. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 18, cette histoire, cette parabole. Et l'autre possibilité, c'est la confiance en Dieu et non en soi, en s'appuyant sur ce qu'on fait. L'autre personnage de cette parabole de Jésus, s'il est un homme assez respectable aux yeux de la société, est en fait un voleur. C'est un collecteur d'impôts. Mais son attitude parle d'un abandon à Dieu qui se manifeste par le fait de dire à Dieu et de lui remettre toutes ses imperfections. C'est un pas essentiel qui libère profondément. Et Jésus ajoute que c'est ce dernier qui est reparti, déclaré juste, c'est-à-dire sauvé. Que faire alors? Dieu nous invite à passer avec lui un pacte de confiance. Je décide de te faire confiance, de compter sur toi. Je décide de t'écouter, malgré mes oreilles souvent bouchées. Je m'abandonne à toi et j'accepte de tout te donner, même mon égoïsme, même mes manquements, mes blessures, mais aussi mon avenir, mes projets, pour mes études, pour ma vie sentimentale, pour mon mariage futur, pour ma santé, pour ma vieillesse, pour ma mort. Je m'en remets à toi. Je veux me laisser diriger par toi, dans la confiance en toi. Et Seigneur, aide-moi à le vivre toute ma vie. Que faire encore? Alors Jésus relie la confiance en Dieu à l'écoute de sa parole. Quand il dit, c'est repris par Jean au chapitre 5, verset 24, « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance, les deux sont liés, qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est passé de la mort à la vie. » Jésus affirme que les deux critères pour posséder la vie éternelle, c'est écouter sa parole, la Bible, et placer sa confiance en Dieu. C'est l'histoire de cet homme qui veut vendre sa maison. Alors il la nettoie, il la retape. Et oui, ça se vend mieux quand même quand c'est bien propre. Mais une fois que le promoteur l'a acheté, il la rase. Moi qui ai pris tant de peine pour la réparer. Pouvons-nous réparer nos vies? De dire non, n'est-ce pas pousser à la paresse? Et pourtant, la solution n'est pas tant d'essayer de réparer notre vie que de l'abandonner totalement à Dieu. Parce que ce qu'il veut, c'est nous faire connaître une vie transformée. Voilà la bonne nouvelle qui est pour chacun. Peut-être avons-nous vécu des blessures il y a des années qui déterminent notre vie d'une manière négative. Peut-être les circonstances difficiles que nous avons traversées nous font entrevoir un avenir noir. Bernie May, chrétien, pilotait son avion. Il raconte : la voix du contrôleur de l'aérodrome était calme. Je vous ai bien reçu. L'un des moteurs vous a lâché. Voulez-vous que je vous guide ? Ok, c'est un Américain. Hein ? Je vous reçois et vous demande des caps radar pour rejoindre l'aérodrome. Je jetais un coup d'œil sur mes passagers qui, pétrifiés, contemplaient l'hélice immobile. Virez à gauche au cap 110 et descendez à 1200 mètres. Je suivais les instructions de la tour de contrôle à la lettre. À cette altitude, nous avons pénétré dans les nuages et avons volé sans visibilité dans le crachin et la pluie. Je pouvais à peine voir le bout de mon aile, mais je savais que lui connaissait ma position. Je ne connaissais pas son nom, je ne l'avais jamais vu, mais je savais que je pouvais lui faire confiance. Je n'avais pas d'autre choix. Soudain, nous sommes sortis des nuages et la piste s'étendait devant nous. Je ne savais pas que l'asphalte était si beau. Arrivé au sol, j'ai pensé à une autre voix, calme et patiente. Elle a toujours été présente, même quand, pendant des années, des brumes aveuglantes ont jeté le chaos dans ses plans tracés. Suis-je prêt à suivre les instructions de cette voix exactement, quand je ne peux pas voir plus loin que le bout de mon nez? Et Bernie May termine en citant ce verset: « Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. » Premier épître de Pierre, chapitre 1er. Lucio, qui a été capitaine de l'équipe de football du Brésil, a dit à propos de la confiance en Dieu: « J'ai trouvé le bonheur et la satisfaction quand j'ai accepté de mettre en pratique ce que dit la Bible. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Faire confiance en Jésus-Christ, c'est la décision la plus importante pour votre vie, mais aussi la plus merveilleuse.